Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. C'est presque un double thème d'ailleurs ce soir, parce qu'on va parler des small caps, mais plus précisément encore des small caps suédoises. C'est un marché que Franck Sabat connaît bien. Il est responsable du développement Europe, entre autres pour l'asset management de Berenberg. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Bah, commençons quand même par le marché suédois. Qu'est-ce qui caractérise ce marché boursier à nos frontières?
Alors, je dirais, il y a quelques caractéristiques sur le marché suédois. La première, peut-être, c'est qu'elle est moins connue, je dirais, hors Suède. Donc, il y a un champ d'opportunités assez intéressant pour des gérants actifs dans les small caps. La deuxième, c'est que c'est un écosystème en Suède qui est fait pour amener beaucoup de sociétés en bourse. Concrètement, en Suède, on parle d'un pays où il y a 10 millions à peu près d'habitants.
Ouais.
Il y a autant de titres listés qu'en France. Donc sur une économie qui est bien plus petite.
Ouais, ouais.
Donc c'est une économie qui est très tournée vers l'export et qui est très dynamique et très enclin à avoir des sociétés listées. On connaît les grandes, hein, on connaît les Spotify, les Ericsson ou les Volvo. Il y en a beaucoup dans l'univers des small caps et donc c'est plutôt un bon champ d'opportunité en fait.
Il y a une vraie culture boursière dans ce pays, que ce soit du point de vue des entreprises ou du point de vue peut-être des investisseurs aussi, hein, j'en sais rien, mais il y a une vraie culture
Oui, ouais, ouais, on le voit en fait, on parle de 800 à 900 titres listés.
Ouais, ouais.
Si on compare la Suisse, un pays que j'aime beaucoup,
ouais.
Taille à peu près équivalente en nombre de gens, là on parle de 250 titres.
Hey, c'est
donc
dingue,
c'est vraiment, hey, y a vraiment
pas cet ordre de grandeur en tête. Ouais.
Et du coup, il y a tout l'écosystème qui est lié à ça. Donc aussi bien les sociétés, les CEO qui sont incités à aller chercher des capitaux sur les marchés publics. Et puis aussi un réseau de brokers de couverture des titres qui est hyper établi, qui reste assez local. Il y a même des sociétés qui sont listées et qui ont des capitalisations assez élevées, où la documentation sera toujours en suédois.
Donc,
l'idée d'aller creuser un petit peu.
Et il y a des caractéristiques en matière de gouvernance d'entreprise, justement, du fait de cette culture boursière suédoise. Il y a des qualités qui ressortent naturellement, de manière évidente, pour ces entreprises suédoises.
Alors oui, on aimerait bien dire oui en général, et c'est le cas.
Ouais.
Après, il faut quand même aller vraiment faire ce travail de sélection. Je pense qu'on retrouve, c'est ce côté où ils sont quand même très dans la logique de développer beaucoup l'activité pour être prêt à attaquer le côté international.
D'accord. Ils savent que leur marché est trop petit.
Il y a des limites.
Et que le besoin de devenir international est un besoin qui vient assez vite dans la construction d'un plan d'affaires, quoi.
Exactement. Donc, si on se retrouve dans les secteurs de la santé ou de la tech, là, ils savent qu'ils ont besoin d'aller à l'extérieur et à l'international. Après, on retrouve aussi, de façon assez surprenante, des acteurs uniquement locaux et très forts. Donc, il y a vraiment cette culture de l'entrepreneuriat et l'écosystème qui permet, je pense qu'on a souvent ces sujets en France, hein, de dire voilà, on peut faire des levées, mais à un moment, il y a une limite. Là, il y a vraiment cette possibilité d'aller sur les marchés.
Jusqu'à l'échelle mondiale.
Ouais, exactement. Bah,
Spotify, vous l'avez cité, est un exemple parfait. Alors, Ericsson, il y a eu la grandeur. Ericsson, bien sûr. Non, mais à chaque fois, ça a été des boîtes leaders dans leur domaine. Angry Birds aussi, je crois que c'est eux. Dans les jeux vidéo,
oui,
hein, c'est ça. C'est ça. Oui, il y a un écosystème aussi.
Ils ont eu des belles années. Et puis des
oui, oui, oui. Angry Birds, je crois que ça a peut-être un peu, un peu passé.
Fois.
Mais ouais. ça a très bien fonctionné. Bah, prenons des exemples. Alors, parlons de Mnet.
Ouais.
Donc, qui est une plateforme immobilière, c'est ça, sur le marché
suédois ?
Exactement.
Là, on est vraiment... Alors, pour le coup, on est dans un acteur 100% local. Mnet, c'est assez simple, hein, c'est les annonces immobilières. Donc, c'est vraiment ces acheteurs, vendeurs de biens immobiliers.
Le Se Loger suédois, quoi.
Se Loger, entre le Se Loger et le Bon Coin.
D'accord.
La différence, c'est qu'ils ont 90%, 90% du marché...
Pour la Suisse.
Ouais. Mais ils ont quasiment la totalité du marché des petites annonces. En fait, c'est devenu un acteur incontournable. Donc, à partir du moment où il y a un vendeur, il doit publier sur ce site.
S'il n'est pas sur site, il ne vendra pas, quoi.
Bah, ça va être plus compliqué.
Ouais,
en sachant qu'en Suède, ils ont une spécificité, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait un agent immobilier dans la boucle. D'accord ?
D'accord, oui.
Ça, c'est leur spécificité.
Okay.
Et donc, Mnet, les agents immobiliers et les vendeurs et les acheteurs ont tout intérêt, en fait, à travailler sur cette plateforme, ce qui au fil des années, ils ont construit cette position complètement dominante, et aujourd'hui ils sont clairement en place et ils ont la capacité d'ajuster en fait leur pricing de façon hyper forte concrètement. Donc ils ont en fait ils sont, je dirais, l'étape de croissance avant, c'était vraiment de devenir cet acteur dominant, voire quasiment de monopole. L'étape aujourd'hui, c'est de leverager sur cette situation et de pouvoir offrir des packages basiques, premium, super premium.
D'accord.
Et effectivement, les gens sont prêts à payer ce premium. Donc, en termes de marge, c'est assez incroyable.
Ouais. Et là, c'est quel type de niveau de croissance désormais dans cette phase-là aujourd'hui?
On est sur des croissances. Alors, ils sont toujours dans des logiques. Il reste quelques petits acteurs. Donc, il y a toujours de la consolidation.
D'accord.
Okay. Ça reste marginal.
Ouais.
On est sur des croissances au-delà de 15%.
D'accord.
Ouais, donc, c'est okay.
Et ça se paye comme une valeur de croissance?
Et ça se paye, oui. Les prix sont assez hauts.
Ouais. Oui, non, mais c'est.
Mais en même temps, on le voit sur leur. Je pense sur les 2 à 3 dernières années, ils ont vraiment mis en place cette nouvelle politique de pricing.
De pricing, ouais. Ouais.
Et les gens sont prêts à payer.
Ah ouais.
Ils sont, en fait, par rapport à la valeur du bien, ça reste totalement marginal.
Bien sûr.
Et par rapport, et forcément, ils sont enclins à accélérer en fait leur transaction. Et ce site Mnet va vraiment permettre d'optimiser la transaction.
L'autre entreprise, alors l'autre cas intéressant sur le marché suédois, c'est Mips. Alors là, qui est une entreprise qui s'est quand même internationalisée, c'est une entreprise mondiale aujourd'hui. Et donc, je recommande à tout le monde de regarder sur les casques de vélo notamment. Vous verrez le petit œillet jaune Mips qui signale justement que le casque de vélo a été fabriqué par Mips, ou plus précisément la membrane intérieure. C'est ça, je crois.
Ouais, c'est là où ils ont été très mal.
C'est un équipementier des casques, quoi.
Alors, c'est encore. En fait, le producteur de casque va fabriquer l'entièreté. D'accord. Donc, Mips, en fait, ça fait 30 ans, une équipe d'ingénieurs qui ont développé un amortisseur.
Ouais, c'est ça.
Donc, l'idée, au départ, c'était effectivement le vélo. Et l'idée, alors, on le souhaite à personne, mais en cas de chute, c'est plutôt une chute latérale.
D'accord.
Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un amortisseur qui réduit le risque d'avoir un mauvais choc.
La tête bouge moins, c'est
exactement.
Ça, hein, si, pour dire les choses simplement.
On est vraiment dans cette logique de limiter l'impact sur
la boîte crânienne et le cerveau à l'intérieur, bien sûr.
Ouais. Et ça, donc, ils ont développé ça au fil des années, renforcé cette technologie. Et en fait, leur business model, vraiment, plutôt que se positionner comme fabricant de casques, ils ont été mettre en place des partenariats avec tous les fabricants, donc les Scott, les Giro, les Specialized, autant que possible, dans l'idée de mettre en place cette sécurité supplémentaire. Et donc, ils ont un positionnement qui est unique. Ils sont les seuls à pouvoir offrir ça. Ils ont effectivement, d'un point de vue, je dirais, image,
c'est incroyable.
C'est idéal parce que, en fait, le producteur qui va intégrer cet amortisseur dans le casque doit coller la pastille. Ouais. Donc, il y a une publicité.
Intel Inside, c'est le même truc.
Exactement.
Que Intel Inside sur tous les PC, quoi.
Ouais, c'est la même.
C'est ça. Hein.
C'est très, très malin.
Ah oui.
Et après, ils ont. Et même si on reste sur le vélo, le Tour de France, il y a peut-être 5 ans, on en voyait très peu, de ces petites pastilles jaunes. Là, sur les récents tours, il y en a énormément. Donc, ils ont vraiment. C'est assez logique. Et après, ils ont un business model qui est hyper simple, en fait. Eux, ils vont vendre ça peut-être entre 5 et 10 dollars aux fabricants. Là-dessus, ils ont une marge de 50%. Et le fabricant, sur son casque, va rajouter un premium de, en gros, 15 à 20 dollars. Donc, encore 50% de marge. Donc, c'est presque un alignement parfait. En sachant que l'utilisateur final, moi, je vois même à titre personnel, demain, j'achète un casque. C'est comme on est dans des objets qui sont quand même assez coûteux.
Oui.
On est prêt à rajouter ce premium pour le côté sécurité.
Oui.
Et c'est là où Mips, je pense, a été très malin depuis le départ. Et eux, alors eux, ils sont vraiment dans le cadre de l'entreprise suédoise qui est développée à l'international. Aujourd'hui, la moitié des ventes sur les casques vélo, c'est aux États-Unis. Donc, il y a encore une grosse partie qui peut être développée en Europe. Et si on regarde sur la partie développement, en fait, donc ils ont commencé avec les vélos,
vélos
de route,
les
TT, BMX.
Toute la gamme, quoi,
exactement.
Bien sûr.
Et après, ils ont continué dans le sport avec les vélos, les casques de ski.
Bien sûr.
En 10 ans sur les stations, globalement, les gens s'équipent.
S'ils l'ont fait au bon moment, enfin, parce que pour avoir skié depuis longtemps sans casque, j'ai vu l'avènement du casque sur les pistes de ski.
Ouais.
Alors, il y a eu le moment Schumacher, comme je l'appelle. Non, mais ça a sans doute joué. Enfin, aujourd'hui, plus personne n'irait skier sans casque, enfant comme adulte, j'ai envie de dire.
Alors les enfants, je pense que...
Ah ben les enfants, je crois que c'est... Oui, il n'y a plus de doute là-dessus. Et les adultes, mais s'ils sont arrivés au ce moment-là, à ce moment-là sur ce marché, effectivement, ça a dû être...
Bah c'est vraiment, ils étaient au bon moment. Ah ouais. Et après, et c'est la même logique, le ski reste un loisir de luxe. Ouais. Et du coup, ceux qui vont s'équiper en casque sont prêts à payer
le premium.
10 ou 15 de plus
pour
avoir une meilleure protection. Ouais. Donc ça, ça a été un deuxième axe très fort. Et ils sont en train de développer bah, la suite, donc les casques de moto, les casques de chantier.
Ah, ouais.
Et en fait, tant qu'il y aura des opportunités dans ce milieu de la protection, ouais, ouais. Ils ont la capacité à continuer à croître. Ouais. Intéressant, sur MIPS, on a quand même eu une période où 2020-2021, mobilité douce, oui. Énorme traction.
Oui.
Et donc là, ils ont eu un rallye ouais. très, très marqué. 2022-2023, il y a eu vraiment, et surtout 2023, l'ajustement des stocks, l'ajustement du post-Covid. Donc là,
j'entends.
Le titre a souffert, la société continuait à performer.
Ouais.
Et là, 2024, ça repart. Il y a vraiment cet effet de base.
Hein. Ouais.
Et donc, on repart sur des bases assez saines.
MIPS et Mnet, deux pépites de la cote small cap suédoise. Merci beaucoup Franck d'être venu nous parler de la Suède. Franck Sabat, responsable du développement Europe de l'Asset Management de Berenberg, était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir.